que, comme nous l'avons décidé de Zabassem cette année, nous allons essayer de consacrer les cours que nous avons ensemble, qui sont un tout petit peu diminués au niveau de la fréquence, à cause de, ou grâce, j'ai beaucoup de théorie dans la journée, beaucoup plus que les années précédentes, notamment au Mahon Meir, dans des écoles qui se sont ouvertes dans de certaines chouvines, où j'enseigne l'art et la Emunah en même temps. Donc il y a beaucoup d'activités, en plus de mes activités personnelles, donc c'est très 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 complet. Déjà parce que nous avons décidé de faire un cours sur les mois de l'année. Donc chaque mois, avec la notion du mois, qu'est-ce qui prédomine pendant le mois, et essayer de voir l'énergie qui circule pour nous aider à nous donner des kélim, des instruments, à vivre différemment les mois de l'année. Et nous avons déjà dit dans des cours précédents, mais on le répète comme si c'était nouveau, donc même s'il y a quelques répétitions, ce n'est pas grave, c'est pour renforcer la connaissance des choses. Chaque mois de l'année a une couleur, a une force différente. Chaque mois de l'année a son énergie propre. La Kadosh Baruch Hu a créé le monde de telle manière qu'il y ait en fait une spirale qui n'est pas un cercle du temps et non pas une ligne droite au niveau du temps, mais un cercle qui suit en fait une ligne droite, donc une spirale, un cercle et une droite mélangée. Nous avons déjà expliqué la notion de Igulim et de Yosher au niveau de la Kabbalah, c'est-à-dire de la forme circulaire de la vie, de la forme rectiligne. Nous allons avoir des adhésions sûrement l'occasion d'y revenir. Mais Akadosh Baruch Hu a créé le monde de telle manière que les mois en fait reviennent, que les temps reviennent, que les zmanim reviennent, mais jamais au même point dans lequel ils étaient l'année précédente. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque année, nous sommes dans un degré supérieur, automatiquement supérieur, jamais inférieur, parce que vous allez me dire peut-être que c'est descendu. Ça ne peut pas descendre. Le judaïsme est tellement optimiste qu'il dit que nous approchons sans arrêt de la Géoula, donc nous allons que dans une seule direction, dans la direction ascendante, celle qui monte vers la lumière divine. Quand je dis monter, c'est pas qu'on est en train de quitter la terre pour monter dans des sphères supérieures physiquement parlant, mais je veux dire par là qu'il y a une lumière supplémentaire qui n'était pas l'année précédente, qui apparaît l'année qui vient. Et chaque année, nous avons une lumière supplémentaire qui en fait la somme de toute la lumière messianique que le monde doit connaître bientôt dans les Ezra Hashem. Vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui ne le savaient pas, il y a eu la première réunion du Sanhédrin à Tveria. Je vous l'avais annoncé il y a un mois pour ceux qui étaient au dernier cours à Emunah, que le Sanhedrin allait se remettre en place cette année. Ben, Ezra Hashem, donc c'est quelque chose d'incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, on n'y croit toujours pas. Et pourtant, aujourd'hui, il y a eu la première réunion du Sanhedrin qui est en train de se placer. Le Rambam dit que la Géoula va venir après la mise en place du Sanhedrin. Donc on est vraiment dans une situation, dans une époque, il faut savoir que depuis 2000 ans, il n'y a pas de Sanhedrin. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Alors, on n'est peut-être pas encore au niveau du Sanhedrin tel comme on peut l'imaginer du temps de la Gemara et de la Mishnah, mais toujours est-il que nous sommes dans un chemin, et un chemin qui est en train de se construire. Je reviens à notre Inyan, tout ça pour dire que les années passent mais ne se ressemblent pas. Nous sommes toujours dans une continuelle ascension, et une direction qui nous amène vers ce dévoilement de lumière. Et chaque année, cette lumière supplémentaire nous amène, apporte avec elle, en fait, une parcelle de la lumière globale de Kadosh Baruch Hu, de son dévoilement sur Terre. Nous avons lu la semaine dernière la parasha de Bereshit, et dans la parasha de Bereshit, l'un des récits, c'est la création des astres. Hameorot, Hagdolim, les grands astres, les étoiles, le ciel, avec toute cette carte immense et infinie de signes, de signaux, qui en fait viennent nous donner une leçon pour nous dans ce monde d'en bas. Même quand on appelle le monde d'en bas, c'est le monde dans lequel nous sommes. Il y a un Teilim qui nous résume ce que je viens de dire, Teilim 19, Hashamayim mesaprim kevod el. Le ciel nous raconte la force du kavod, l'honneur de Dieu. Autrement dit, le ciel est là pour nous raconter quelque chose. Le ciel nous parle. Le ciel nous émet une émission que nous devons savoir lire. Exactement comme les graines de beauté sur la peau d'un homme ou d'une femme. Ces graines de beauté sont des étoiles, et les plissures de sa peau sont des étoiles et des formes et des messages que la personne aimée n'a pas besoin de parler. C'est bien si elle parle, mais si elle ne parle pas, on peut voir en elle, hein, dans cette personne, tout ce qui se passe dans sa vie. On peut savoir lire dans ses secrets. Donc le Teilim est clair. Shamayim mesaprim kevod el. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, l'acte des mains de Dieu, Magid Harakia, le ciel nous le dit. Je peux voir le ciel et savoir ce que Akadosh Baruch Hu fait et comment il le fait, ce qu'il est en train de faire, comme Ivan, bien entendu, au niveau humain et avec toute l'humilité que cela comporte. Donc l'astrologie, c'est en fait la sagesse des astres. En grec, astro, l'astre, c'est logos, étude. L'étude des astres. Donc, nous avons adopté ce terme pour faciliter, mais qui en réalité, en hébreu, nous dit, se dit, quel chokhmat hamazalot. Chokhmat HaKochavim, le secret, la sagesse des étoiles et des astres et des mazalot, des signes. Et tous ces astres et tout ce qui se fait dans le ciel, tout ce qui se passe dans ce ciel immense, correspond à ce qui se passe sur Terre. Autrement dit, la Terre est le centre nerveux de tout l'univers, c'est ce que nous enseigne le Kabbalisme, c'est le centre même de toute la création, la Malachim, et ce centre de toute la création, nous le lisons, nous pouvons le lire à travers les étoiles. On est obligé donc déjà de faire une petite conclusion, ce que nous croyons comme étant quelque chose de loin de nous, comme les étoiles, le ciel, et avec la différence de ce qui se passe sur Terre, en réalité c'est une seule chose. Et là rentre toujours cette même idée que j'essaye de Bezrat Hashem de faire passer, c'est qu'il n'y a pas de coupure entre les choses. C'est qu'il faut tout apprendre à voir comme une seule entité. Une seule entité de tout ce qui se passe. On ne peut pas dire ça, c'est ça, et ça, c'est autre chose. Il n'y a pas de autre chose. Tout est une seule unité, seulement il faut savoir lire les choses pour savoir comment les liens se font entre les différents degrés qui nous paraissent complètement déconnectés les uns des autres. Okay? Donc, toute l'unité de l'univers, c'est ce qu'on essaye de voir par cette étude, de voir beaucoup plus large, de ne pas se cantonner à une étude sur texte qui reste dans les lettres du texte, mais en même temps apprendre à voir que si pendant 20 ans de ma vie j'ai vu des lettres, je peux quand même comprendre aujourd'hui que sous les lettres se cache un parchemin ou une feuille blanche, et que peut-être je n'ai pas fait attention jusqu'à maintenant, que cette feuille existe, parce que je regarde immédiatement lorsque j'ouvre un livre que des lettres. Et donc je me suis contenté des lettres. Donc j'ai regardé l'assemblage de détails. Mais je n'ai jamais pensé à voir le tout comme un ensemble, c'est-à-dire de regarder d'abord qu'il y a en fait tout un ensemble qui est contourné et qui est en dessous la lettre et qui supporte toutes les lettres avec tous les mots, toutes les phrases et toute l'idée et toute la sagesse qui se dessine entre ces lettres, lire entre les lignes. Nous lisons pas seulement entre les lignes mais entre les lettres. Et dans les lettres, dans le blanc des lettres, comme si on regardait quelqu'un dans le blanc des yeux. En français, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on ne fait rien. En hébreu, on fait tout. Quand on regarde quelqu'un dans le blanc des yeux, c'est qu'on a compris pas seulement le noir des yeux, ce qu'il est en train de dire maintenant, mais tout ce qu'il n'a pas dit et tout ce qu'il est. Donc il y a un lien continuel entre ce qui nous dépasse, entre ce qui se fait en haut, et notre monde matériel, notre monde gâchis, où la matière domine. Lorsque le roi David était roi, la sagesse des étoiles s'est répandue d'une manière très grande dans le monde. Il y a marqué dans le livre d'Ivré Hayamim, les paroles des jours, je traduis textuellement, Ivré Hayamim Aleph, au verset 12, qu'il y avait une tribu en Israël qui se spécialisait dans cette étude. Cette tribu s'appelle Issachar. Et dit le texte là-bas, dans Divrei Hayamim, « Umi bnei Issachar yod'ei bina le'itim » Parmi les enfants d'Issachar, il y avait des gens, des hommes, qui avaient le da'at, la connexion. Pas la connaissance seulement, la connexion, le savoir relié. Bina, au niveau du discernement, l'éritim, en ce qui concerne le temps. Autrement dit, je traduis d'une manière simple, des hommes qui savaient par rapport aux combinaisons célestes ce qui est en train de se passer dans le temps. Ce sont des secrets. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une étude profonde. Je vais vous donner juste un exemple. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il est 8h20. La nuit est tombée vers 5h30. Sachez qu'aujourd'hui, à 5h30, il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé depuis 88 ans. Mais, seulement, pas tout le monde le sait. Ce n'est pas dit dans les informations. Mais, il y a quelque chose de très spécial qui s'est passé sur Rosh Chodesh Chesvan, qui se passe tous les 88 ans. Il y a, au niveau des astres, je n'ai pas rentré maintenant dans tous les détails, comme le début du Molad de la Lune à telle et telle heure, ça change tout. Et si le Molad était à telle heure de la journée, il s'est passé quelque chose. Tout simplement, sans vous compliquer, parce que c'est déjà une étude et on rentre là-dedans dans des unanimes que je n'ai pas l'intention, entre guillemets, de développer trop dans ce cours, mais de donner une idée générale pour qu'on puisse avoir quelque chose en main lorsqu'on sort du cours, et pas avoir un cours d'astrologie. Mais sachez qu'il y a un siman extraordinaire d'un grand chesed, d'une grande lumière de bénédiction qui est arrivée sur Terre aujourd'hui, il y a 2 heures, 3 heures. Okay? C'est un siman de Rachamim qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé, et les kabbalistes en parlent, sans rentrer dans les détails maintenant, j'essaierai tout doucement de faire passer le message d'une manière douce et accessible. La même chose, mais dans un autre degré, c'est-à-dire à un étage plus bas, à quelques étages plus bas. La conséquence, c'est justement, c'est pour ça que je ne veux pas trop entrer, il va y avoir une accélération. Voilà. Il y a une accélération des choses. Ça va passer. Demain, c'est déjà maintenant. Non. Alors je reprends le verset. Oumibnei Issachar yod'e bina le'itim. Des enfants d'Issachar connaissaient, avaient la connexion, le savoir, faire la combinaison des temps, de ce qui se passe dans les temps de Rabba. La date maïe assele Israël, regardez comment dit le verset, pour savoir ce qui va se faire concernant Israël. Autrement dit, tout ce qui se passe dans ces actes, ce sont des simanim pour Israël. Alors, il y a quelque chose qui est quand même, il faut remettre, avant de commencer Bichlal, les siurim de cette année, mettre les choses en place. D'abord, il y aura plus ou moins deux cours en hébreu qui vont suivre. Là, par exemple, il va y avoir deux cours en hébreu, ce lundi qui va venir, ben, il va passer le lundi d'après. Il va y avoir quelques combinaisons avec le cours de ce soir, mais il y aura toujours quelque chose d'autre dans les cours en hébreu, notamment ce sera ce texte, et en plus de ça, il y aura d'autres notions, peut-être un petit peu plus poussées, concernant toujours le thème principal, c'est le temps. C'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau des mois de l'année et leur énergie et les conséquences sur l'homme d'Israël et sur notre époque. La Gemara, dans le traité de Shabbat à la page 75, dit la chose suivante. Eizohi chokhma ubina shehi le'ene ha'amim. Quelle est la sagesse et le discernement, Chokhma et Bina, qui les deux ensemble forment le Da'at. Le cerveau droit et le cerveau gauche, Chokhma et Bina, les deux ensemble forment le Da'at, le cervelet, celui qui donne le passage à l'acte. La même chose dans le ciel. Quelle est la sagesse et le discernement, comme les deux cerveaux du ciel, que lorsque les nations du monde voient cette sagesse sur Israël, alors il dit, ça c'est un peuple qui a la sagesse. Dit la Gemara, Hevé Omer doit dire, Vechishuv Trufot Umagalot, c'est savoir le secret des temps et du Mazal. Et ça continue, Kol Yodea Lachashov de Trufot de Mazalot, Ve'el Nochosev, tout celui qui sait faire ça. Parce qu'il faut savoir, c'est un travail extraordinaire. Je ne suis pas en train de parler de l'astrologie Goy. Je suis en train de parler de l'astrologie kabbalistique. Okay? De la Kabbalah. Celui qui sait faire ça, et qui ne le fait pas, à l'av, au mer à Katou, il est écrit sur lui, v'et poa la shem lo hibit. Il n'a pas su voir l'action de Dieu dans sa vie et dans ce monde. Apparemment, on doit s'efforcer de savoir. Mais, d'un autre côté, les sages sont sortis d'une manière très virulente et se sont battus, ont combattu toutes les superstitions qui se sont placées, dressées autour de ça. Parce que savoir le vrai sens, le vrai secret du temps, c'est une chose. Mais les gens qui ne savent pas et qui grèvent, qui rajoutent plein de choses autour, comme si ça faisait partie de cette sagesse, et en réalité il ne s'agit que de superstitions et de choses vaines, ça c'est assourd. Donc vous voyez qu'il y a une corde très sensible et ça marche sur un fil. On est ou dans le code dans ce domaine, ou Chas de Shalom, on peut tomber de l'autre côté. Rabbi Yochanan dit, un mazal d'Israël. Israël n'a pas de mazal. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il cite un verset, c'est Néhémar de Yirmiya 32, Jérémie, au chapitre 32, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu, et Derech HaGoïm Al-Til Medou, n'allez pas prendre les chemins des nations du monde. Hein, Madame Soleil. Ou mais autant à Saint-Main, Altechatu. Et regardez jusqu'où va Jérémie. N'ayez pas peur des signaux qui viennent du ciel. Parce que, en réalité, c'est ça le Inyan. C'est qu'on peut tomber dans une avoda zara, qui en fait, met soi elle-même, fait peur à l'homme, et on lui dit par exemple aujourd'hui, tu as telle et telle énergie, tu dois rester au lit. Il vaut mieux que tu ne sortes pas. J'aurais dû ne pas sortir aujourd'hui. Mais on connaît cette expression. C'était un jour, elle a bien dit à la radio ce matin qu'il ne fallait pas les signes machin, des trucs comme ça. Les gens qui suivent ça, en réalité, ne servent plus Dieu, ils servent l'étoile. En hébreu, ça a un terme très simple, Oved Kochavim. C'est la Avodah Zara. Ils servent l'étoile. Et l'étoile lui fait peur. Et ce que l'émission qui est donnée par l'étoile lui fait peur. Donc elle ne sort pas, elle ne fait pas. Et donc le verset de Jérémie continue, qui est Khatoua Goïm, parce que les Goïm ont peur de cela. Et toi, tu ne dois pas avoir peur de ça. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit « En Mazal Israël » dans deux sens. Où mais ta peur ne rentre pas dans ce Mazal parce qu'il n'existe pas pour toi. Mais en réalité, ce qu'il est en train de dire Rabbi Yochanan, tu sais quoi? Tu sais où est ton Mazal? C'est « En ». « En », c'est-à-dire l'infini. « En sauf ».« En » deux points. Mazal Israël, c'est lui le Mazal Israël. N'aie pas peur des étoiles, s'il y a quelqu'un qui est au-dessus des étoiles, car il les a créées lui-même. Donc tu dois être avec lui et pas sous ses astres. Donc l'homme ou la femme qui rentre dans une vie remplie d'inquiétude, de peur, de l'emplacement des étoiles et des astres, c'est en réalité, sort du chemin de la Torah. Et le Chachamim conclut Utsuva utfila utsdaka ma'avirim et roa hadzera. Même s'il y a une zera, et nous allons voir tout de suite, dans quelques temps, la Zera Hashem, qu'il y a une influence, elle existe, elle est là, elle a été créée. Mais pour qui? Et comment? Ça, c'est une autre chose. On verra comment, pour ceux qui sont soumis ou ceux qui sont au-dessus. Malgré tout, les sages concluent, pour sortir d'un décret que les astres montrent, il y a trois choses. Teshuva. Donc, dans la notion la plus profonde qu'on puisse dire concernant la Tshuva, je ne suis pas en train de parler seulement d'un déguisement extérieur. Je suis en train de parler d'un retour, une réponse, Tshuva, d'un retour vers sa source, vers moi-même, vers mon identité la plus vraie. Autrement dit, je suis en train de parler d'un retour vers le début de ma vie, donc ma racine. Ça peut me faire changer complètement, même si un décret est là. Pourquoi? Parce que je dépasse la notion du décret. Parce que je suis remonté au-dessus de tout pour aller vers la source. Et puis là, la même chose. La tfila, la traduction, ce n'est pas prière, mais c'est lien. La tfila est un lien. Donc lorsque je me relie, je suis en fait en connexion avec ma source, donc c'est la même notion que la Teshuva. Donc je suis en train de revenir vers ma source, donc je suis passé au-dessus des astres. Donc ce n'est plus l'astre qui me domine, c'est moi qui domine l'astre. Parce qu'Abraham Avinu est né sous une influence astrale qui ne pouvait pas lui donner d'enfant. Akadosh Baruch Hu lui enseigne, et par la même, il nous enseigne comment il faut faire. Tu n'as pas d'enfant, c'est marqué dans tes étoiles, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais t'apprendre la combine. C'est Vayotseo Toachuta. Akadosh Baruch Hu prend Abraham et le fait sortir dehors. Alors ceux qui lisent le psat, le sens simple de la Torah, ils ont l'impression que Akadosh Baruch Hu a pris Abraham par la taille ou par la nuque. Et il disait à mon ami, on va sortir, on va se balader dans une petite balade nocturne. Les kabbalistes nous disent, il n'en est rien. Akadosh Baruch Hu est en train de nous enseigner qu'il a sorti Abraham, qu'il lui a appris à sortir de sous l'influence de ses actes, va yoter autant chouta. Et regardez ce que dit le commentaire là-bas. Au lieu qu'Abraham voit les étoiles du bas vers le haut, comme nous, il les a vues alors du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il était comme Dieu en train de regarder sa création. Donc l'étoile est soumise à Abraham et non pas Abraham est soumis aux étoiles. Vous voyez donc qu'il y a un changement total. Et à partir de ce moment-là, de Vayotse Oto Achuta, lorsque tu es sorti de ton jeu, de ton cercle vicieux, de ton cercle, qu'on appelle en hébreu Ma'agal Ksamim, que tu ne peux pas sortir, lorsque tu sors de là, tu peux dominer. Vous voyez, j'ai dessiné avec mes mains deux signes. Je dis, lorsque tu sors de ça, c'est-à-dire lorsque tu trouves la ligne, le rectiligne dans le cercle, alors tu peux dominer ton astre. Mais si tu es soumis qu'au cercle, que tu es soumis aux astres, donc en réalité tu es encore dans l'influence. Et rappelez-vous la faute du cercle. En hébreu, c'est Hegel. Hegel en hébreu, Ma'agal. Iboul, qu'est-ce que c'est que cette faute? C'est revenir en fait à la soumission aux astres. Et où est la terre de la soumission aux astres? L'Égypte. L'Égypte est soumise au premier signe de l'astre, du zodiaque, c'est-à-dire le bélier. Le bélier est le premier signe. Quelqu'un qui se trouve dans le pays où le premier signe, c'est celui qui gère tout ce qui se passe, est en fait sous l'influence du temps. Moralité, l'exil d'Égypte n'est rien d'autre que l'exil du temps. Donc ils sont en exil au niveau du temps. Les hommes de l'exil d'Égypte, ce sont les hommes qui, même aujourd'hui, se disent toute la journée, je n'ai pas le temps. Ce sont des exilés en Égypte. Et sortir de cet exil d'Égypte, c'est se déconnecter de ce bélier. Mais lorsqu'on sort de l'influence du bélier et que Paro nous dit, regardez, vous avez un astre rouge en face des yeux, Réouki Ra'an Neged Pnechem, il a nommé une étoile rouge, qui est en réalité la planète Mars, en disant, regardez, le mal est devant vous. Mais on avait où la possibilité d'être soumis à cet acte, donc de voir des guerres et du sang et de la mort, ou alors de transformer tout ça en sang de vie. C'est ce que Moshe enseigne aux enfants d'Israël en faisant la Brit Mila. Et donc il dit à Paro, tu as raison, regarde la planète Mars, c'est le sang de tous les bébés d'Israël qui sont en train de donner la vie, on est en train de les circoncire. Donc l'astre a été dominé. Il existe, il y a une influence, mais on est en train d'utiliser cette influence comme moi j'ai envie, comme moi je veux. Pas comme l'astre m'indique apparemment quelque chose de définitif, de bouclé, et qui ne peut plus sortir. Donc moralité, on peut dominer. Mais si on tombe une fois de plus dans la faute, on revient au beau. Donc toujours dans la même racine. C'est-à-dire on revient au degré du temps, c'est-à-dire au degré de l'âge, donc c'est comme si on revenait en Égypte. Je vois par hasard que lorsqu'on tombe dans cette faute, en réalité on perd toutes les énergies qu'on avait acquises entre temps, et on revient comme dans une notion d'Égypte. Conclusion. Trois choses peuvent nous sortir. Tshuva. Donc les enfants d'Israël font tshuva en quittant l'Égypte parce qu'ils sont en train d'aller vers Israël. Première tshuva, c'est de venir habiter sur cette terre. En passant, on reçoit des mourir, de la Torah. Mais on vient habiter cette terre, donc on sort de l'influence d'Égypte pour rentrer dans une autre influence. On est toujours esclave de quelqu'un. Ça, c'est le Mais nous, en Israël, nous avons choisi d'être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, au lieu d'être les serviteurs des étoiles. Car apparemment, tu n'as pas trop de choix, tu n'as que ces deux. Ou tu es soumis aux astres, ou tu es soumis à Akadosh Baruch Hu. Et je vous donne déjà une partie de la réponse de tout à l'heure. C'est-à-dire que les astres existent pour ceux qui sont encore soumis à eux. Mais les astres n'existent plus ou existent, mais je les domine, à condition que je sois soumis à Akadosh Baruch Hu seul. Troisième chose qui nous enlève, c'est Tzedaka. La Tzedaka change le mazal de l'homme. La fille de Rabbi Akiva, lorsqu'elle est née, les astrologues sont venus dire à Rabbi Akiva que sa fille allait mourir le jour de son mariage. Ah, c'est comme ça dans la Gemara. Et Rabbi Akiva a gardé la chose dans sa tête et s'est fait du souci pendant toute sa vie. Et au moment du mariage de sa fille, il était à la soirée, il attendait. Le lendemain matin, il tape à sa porte et sa fille lui ouvre la porte. Ça va papa, je suis content, merci pour le mariage. Il dit, qu'est-ce que tu as fait ma fille? Pourquoi tu es encore en vie? Ah, je pose la question, de quoi tu parles? Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, il s'est passé quelque chose, mais bon, ça va quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, quand je suis rentré pour me coucher, j'ai enlevé les bâtons qui tenaient mes cheveux. Je ne sais pas comment elles font les femmes, hein, elles ont des trucs, top. J'ai essayé, mais ça rentre pas. Et j'ai rentré, j'avais comme un bas dans lequel elle rentrait ses épingles. Et en fait, elle avait percé un serpent qui était dans son armoire. Et ce serpent devait la tuer pendant la nuit. Et donc, elle a retiré l'aiguille le matin, elle a vu que le serpent est tombé, mort. Et Rabbi Akiva lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour ça? Comment ça s'est passé? Il dit, je sais pas, raconte-moi ton mariage hier soir. J'y étais, mais j'ai pas tout vu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire? C'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. Je sais pas, peut-être, mais bon, j'aime pas trop en parler. Si, dis-moi. J'étais en train de manger. En fait, j'avais pas mangé, j'ai dansé. J'étais heureuse le jour de mon mariage. Et au moment où on m'a servi le plat, j'étais vraiment épuisée. Fallait que je mange un tout petit peu. J'ai levé les yeux, j'ai vu un pauvre devant la porte. Je n'ai pas réfléchi, j'ai pris mon plat, sans manger, j'ai été lui donner. Rabbi Akiva dit, Baruch HaShem, c'est ça que j'attendais. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'est ça. Ma'afé asit biti venitat. Tu as fait un acte de tzedaka et tu as été sauvé. Parce que tu as sauvé quelqu'un de la mort. Nous amène quelque chose qui était vrai, c'est pour ça que je me faisais du souci. Maintenant, je vais te raconter ce que les astrologues m'avaient dit lorsque tu étais né. Et c'était vrai. Tout s'est annulé par rapport à cette simcha. Le jour où toi, tu étais la reine, et tu aurais pu te dire, bon, enfin, quelque chose me revient, laissez-moi tranquille, j'ai le droit de manger 5 minutes. Tu t'es levé et tu as donné ton plat à quelqu'un d'autre. Ce jour-là, tu as changé, tu as transformé ta vie, donc l'acte n'a plus d'influence sur toi. Donc, ma adhérine est droit à Zira. Souvat, filat, daka. Donc, toutes ces trois choses ramènent l'homme à sa source, en fait. Avant la dispersion, avant l'ouverture, lorsqu'il revient à son Aleph, avant qu'il soit dans son Bet, je parle en code, vous comprenez maintenant, l'homme est au départ dans son Aleph. Dans son unité. Lorsqu'il s'éloigne de son unité, il est dans sa dispersion, il est dans sa pluralité. Le monde a été créé ainsi. Dieu allait vers le bête, vous vous rappelez. Moralité, lorsque l'homme fait tshuva, ou lorsque l'homme fait une fila, ou lorsque l'homme fait une tzedaka, il revient à son aleph. Et donc lorsqu'il revient à son aleph, l'influence des astres n'est plus parce que les astres sont placés dans le bête, c'est pas dans le aleph. Dans la création du monde, pas dans l'unité divine. Et c'est pour ça que le temps n'existe pas chez lui. Et quelle est la preuve? Le verset dit clairement, Ani Hashem lo shaniti. Chez moi, le changement n'existe pas. Pourquoi le changement n'existe pas? Parce que le deux n'existe pas. Lo shaniti, lo shnaim. Chez moi, je suis dans le un. Si toi, l'homme, tu arrives à sortir de temps en temps de ton deux, de ton monde de dualité, pour revenir dans ton monde de l'unité qui peut me ressembler. Et donc tu vas dépasser les astres qui devaient peut-être influencer ta vie. Et donc maintenant on peut lire le verset En Mazal Israël. On n'a pas encore commencé le cours, hein, c'est juste une... pour savoir de quoi on parle cette année, Bezrat Hashem. En Mazal Israël. Maintenant vous pouvez lire la chose avec un autre regard. En Mazal, il n'y a pas de Mazal pour seulement pour celui qui a atteint le degré Israël. C'est pas marqué En Mazal la Yehudi. Il n'y a pas de mazal pour un juif. Un mazal Israël, il faut d'abord mériter le degré d'Israël. Lorsqu'on pourra dire de toi que tu es Israël, alors là le mazal n'est plus pour toi. Et c'est elle qui est ton mazal. Un sauf. Mais lorsque tu n'as pas atteint ce degré d'Israël, tu peux encore être sous l'influence de l'Égypte. Et c'est pour ça que lorsque la plaie des ténèbres frappe l'Égypte, il y a marqué que seulement ceux qui étaient Israël avaient de la lumière, ou le Chol Bnei Israël aya Or. Ceux qui avaient atteint dans leur vie la notion Israël avaient de la lumière. Ceux qui n'avaient pas atteint la notion d'Israël encore étaient dans le noir d'Égypte, c'est-à-dire dans l'influence de l'âtre. Certains d'entre eux avaient pu sortir et garder leur notion d'Israël. Je vous rappelle, Israël a falpi sechata Israël hu. Un Israël, même après avoir fauté, reste Israël. Seulement il faut toucher ce point. Même avant d'avoir accédé au point, il faut le voir. Mais autrement dit, même si dans cette salle, il y a autant de niveaux de Kdusha que d'êtres humains qui sont assis dans cette pièce, il suffit qu'on soit juste relié par le désir d'atteindre notre degré d'Israël que nous y sommes déjà. C'est ce qu'on appelle Hirhure Tshuva, le Hirhurim de la Tshuva, la pensée déjà de la Tshuva, d'atteindre ce degré-là. Akadosh Baruch Hu nous compte ça comme si vous en y étiez. Parce que tu as envie d'y être et il le sait si tu mens ou pas. D'un autre côté, Rabbi Hanina nous dit, donc on revient aux actes, Mazal Markim. Le Mazal rend sage. Autrement dit, il y a des gens qui sont nés avec un Mazal qui leur a donné de la Chokhma. Et Rabbi Hanina dit Mazal Ma'asir. Il y a des gens qui sont nés dans un Mazal qui les rend riches. Et Rabbi Hanina dit que yes Mazal et Israël. C'est une contredit. Okay. Il y a un Mazal pour Israël. Le Mazal existe. Je casse ça. Alors nous sommes dans un problème. Nous voyons des sages qui disent El Mazal Israël. Et d'autres sages qui nous disent « Yes, Mazal Israël !» Alors, où on va? La réponse, elle vient dans une Mishnah qui n'a pas été écrite. Ça s'appelle une Braïta. C'est une Mishnah qui est dehors. Cette Braïta se trouve dans Moed Katan, à la page 26. Allez. Que dit la Mishnah là-bas? Bne chaye ou mezone? Bne chaye ou mezone? Qu'est-ce que ça veut dire bne chaye ou mezone? Bne, les enfants. Chaye, la longévité de la vie. Ou mezone, l'argent et la nourriture que tu auras, donc le nombre d'enfants, le nombre d'années que tu vivras, et la nourriture que tu mangeras dans ta parnassa. L'obiskut aloyadava, talia milta, dit la Mishnah. Ça ne dépend pas de ton mérite. Et la bemazala taliaminta, ça dépend du mazal. Les haramim vont même jusqu'à dire, afil ou sefer Torah se baechal. Même le sefer Torah qui se trouve dans l'armoire, il dépend du mazal. C'est-à-dire que quand tu prends pour le lire, Peut-être qu'il y a une faute, et c'est toi quand tu montes à la Torah que tu tombes sur cette faute-là, ou que cette faute-là se tombe sur toi. Okay? Qu'est-ce que dit la Mishnah? Elle donne des exemples. Deux sages. Un qui s'appelait Rava, et l'autre qui s'appelait Raphrizda. Et elle va dire, c'est Haré. Nous n'avons pas l'exemple de Rava, de Raphrizda, Snehem, Chachamim, Sadikim, Ayouk, qui étaient deux sages extraordinaires, des Sadikim. L'Ambrosot, malgré ça, Zenit, Palel, Veyarduk, Samim, l'un d'entre lorsqu'ils priaient, la pluie arrivait, Zenit, Palel, Veyarduk, Samim, et l'autre priait, on voyait rien. Raphrizda a vécu 92 ans et Rava 40 ans. Grande différence. Dans Beitos et Raphrizda, Yusufim Choupot. Dans la maison de Raphrizda, il y a eu 60 Choupot qui ont été faites de ses enfants et de ses petits-enfants qu'il a vu. Dans Beitos et Rava, Yusufim Mitot, dans la maison de Rava, il y a eu 60 morts. Deux sages, deux niveaux identiques apparemment, et deux vies différentes. De Beitos et le Raphrizda, pas seul le claque la ville. Dans la maison de Raphrizda, il y a un peu de pain qui est jeté, du pain jeté pour des chiens, et même ils battaient, et même les chiens n'en veulent pas, tellement ils ont. Il y en a trop. De Beitos et le Rava, dans la maison de Rava, pas c'est horrible. Il n'y a même pas du pain, il y a de l'orge. Il venait Adam pour des hommes, alors que c'est un aliment pour les animaux. Il y a une âme et même temps on ne la trouve pas. C'est-à-dire, l'un était très riche et l'autre est pauvre. Donc on voit que nous sommes placés devant deux entités. Le temps existe, le mazal existe. C'est une preuve, c'est une réalité, mais nous avons la possibilité ou de sortir, ou de dominer, ou d'être soumis, d'être dominé par le temps. Ça veut dire que le sage nous donne ici un ordre de vie et quelque chose qui en réalité n'a rien changé à leur chokhma, n'a rien changé à leur force au niveau de la psychoute. Mais il nous donne ici une leçon. Entre guillemets, c'est comme si on pouvait dire que Raphrizda a tout fait pour donner cette leçon qu'il peut dominer son mazal, et que son mazal est bon, et que Rava nous a donné tout pour nous montrer, même s'il doit payer très cher toute sa vie, que les choses peuvent être inversement, mais ça ne change rien à son entité intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On va le développer au fur et à mesure de Shiurim. En attendant, il faut savoir donc que ces choses existent, que le temps existe, que le mazal existe, que les astres existent, mais que nous avons la possibilité de changer tout ça. Si ce changement est important,